Bonjour au microphone, Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 6 mai 2022. Cette semaine, on parle à Rémi Racine, le grand patron du studio Behavior Interactif, qui célèbre ses 30 ans cette année. On rencontre aussi Bertrand Neveu, un des 7 auteurs du manifeste du métavers québécois. Également au programme, mes collègues, il y a Thierry Weber qui nous parle de Netflix et des votations suisses. Stéphane Ricoul s'intéresse aux technologies qui pourraient apporter des réponses aux problèmes de la pénurie de main-d'œuvre. Et Jean-François Poulin, de son côté, s'entretient avec son invité, Mario Genet. On parle UX et écran immersif. Alors voilà pour le contenu de cette édition de Mon Carnet. Je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières à Luc Courchaine, Afifa Ayari, Audrey Tremblay, Mélanie Charon et Serge Bellemare. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé. Merci d'être là cette semaine et surtout merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Dixième semaine de conflit en Ukraine et comme à l'habitude, je reviens sur le conflit, mais sur un angle numérique. Mais j'ajoute que c'est probablement la dernière fois, la dernière semaine, que je vais consacrer tout mon bloc d'actualité uniquement au conflit et c'est retombé en ligne parce que je veux tranquillement, pas vite, revenir aux autres informations marquantes de l'univers numérique. Mais si vous tenez absolument à ce que je garde le bloc sur le sujet, ben vous pouvez m'écrire, hein, ça me fera plaisir de vous lire. Et si je vois qu'il y a une majorité de gens qui veulent que je poursuive, ben je le ferai. Alors cette semaine, je commence en revenant sur un complément d'information concernant l'entrevue qu'a accordé le ministre du numérique ukrainien, le ministre Fedorov, au quotidien Le Monde, il y a 2 semaines environ. La semaine dernière, je vous parlais de cette entrevue et je citais les chiffres de l'article qui disait que 10 000 récepteurs du système d'Internet par satellite Starlink était utilisé en Ukraine, principalement par des hôpitaux, par des entreprises du secteur de l'énergie, par des autorités locales et par certains fournisseurs d'accès à Internet. Eh bien, cette semaine, le même ministre a publié sur Twitter d'autres chiffres sur l'utilisation de Starlink. Et selon sa dernière publication sur le sujet, on parle plutôt de 150 000 utilisateurs actifs par jour du service Starlink sur le territoire ukrainien. Petite nuance importante à apporter. Les géants du web sont aussi affectés par le conflit en Ukraine. Cette semaine, par exemple, on a appris que l'an dernier, Google avait retiré plus de 3 milliards de publicités sur son réseau parce qu'elles étaient non conformes à ses règles et Google aurait aussi suspendu plus de 5,6 millions de comptes d'annonceurs l'année passée. Des chiffres énormes que je voulais partager avec vous et là, j'arrive à l'impact de la guerre sur Google. Jusqu'à présent, Google aurait bloqué la diffusion de plus de 8 millions de publicités en rapport avec la guerre en Ukraine, des publicités qui contrevenaient à ses règles et Google aurait en même temps supprimé des publicités qui apparaissaient dans une 60aine de médias financés par l'État russe. Imaginez le manque à gagner et tout ça depuis le 25 février seulement. Et c'est la même chose du côté de chez Meta, où il y a aussi des répercussions du conflit. Depuis le début de la guerre, Facebook et Instagram étant barrés, étant bloqués par Moscou. Donc, c'est autant de revenus publicitaires qui ne sont plus accessibles des coffres russes. Nouvelle arme dans l'arsenal numérique de la guerre, le routage de l'Internet. J'avais jamais vu ça dans un conflit jusqu'à maintenant et je vous explique. Cette semaine, dans le sud de l'Ukraine, les forces russes qui ont pris le contrôle d'une ville ont interrompu l'accès Internet sur le territoire pour remettre en service l'accès Internet quelques heures plus tard. Quelques heures qui ont permis aux Russes de changer le parcours des flux Internet qui vont et qui partent de la ville de Kherson, qui compte environ 280 000 habitants. Après le rebranchement, l'Internet de la ville n'était plus branché sur le réseau qui dessert l'Ukraine, mais était plutôt rerouté vers un gros fournisseur de services russes. Ce qui permet à la Russie maintenant de filtrer l'information qui circule sur le réseau là-bas, d'appliquer la censure et donc de contrôler l'information qui se rend jusqu'aux citoyens. En 2014, après la prise de la Crimée par les Russes avaient fait la même chose dans la région. Mais là, de le faire aussi rapidement, c'est assez nouveau et j'ai l'impression que c'est une nouvelle page qui vient de s'écrire dans le livre de la cyberguerre. Cette découverte, elle est due au travail de l'organisation NetBlock qui veille à la défense de la liberté d'accès à Internet dans le monde entier. C'est eux qui ont observé l'interruption du service, son retour et son reroutage. Parlant d'Internet et de la Russie, on peut se demander si le pays ne va pas bientôt fermer son accès à Internet pour conserver uniquement son réseau national Runet. Maintenant que bon nombre des services de l'extérieur sont bloqués, que des entrepreneurs locaux proposent des alternatives aux Russes, le scénario semble commencer à s'activer. Il faut rappeler qu'en 2019, la Russie avait fait un test d'isoler son réseau Internet du reste du monde et, selon la version officielle, tout avait fonctionné parfaitement. Est-ce que c'est vrai? Alors, personne ne le sait vraiment, à part les gens qui ont fait le test, mais ceux-là, ils n'ont probablement pas le droit de dire quoi que ce soit sur le sujet. Aujourd'hui, il resterait 12 points de liaison environ entre l'Internet international et la Russie. Et là, il reste à voir ce que les Russes décideront de faire dans les mois à venir. On a découvert cette semaine, grâce à une étude commandée par le gouvernement britannique, de nouvelles façons, de nouvelles tactiques d'une usine à trolls de Saint-Pétersbourg, un centre de production qui participe à la vaste campagne de désinformation du Kremlin en marge de la guerre en Ukraine. On apprend que les trolls pro-Kremlin travaillent fort pour répandre des mensonges sur les réseaux sociaux et cibler les opposants, mais aussi les critiques de Moscou. Cette unité de trolls, connue sous le nom de Cyberfront Z, serait composée d'une équipe régulière de trolls qui s'occuperait à recruter et à mobiliser un plus grand nombre de sympathisants qui sont en première ligne des publications. On apprend qu'en échange de 45 000 roubles par mois, donc environ 880 $ ou 660 euros par mois, les trolls doivent publier 200 commentaires par jour sur les réseaux sociaux. Les publications servent essentiellement à manipuler l'opinion publique internationale sur la présence russe en Ukraine et de vanter, évidemment, Vladimir Poutine. L'enquête trouve des traces du travail du groupe Cyberfront Z sur 8 réseaux, dont évidemment Telegram, Facebook, Twitter et TikTok. Et quand on parle de nouvelles pratiques, c'est aussi de publier moins de publications originales et de plutôt utiliser les commentaires, donc de laisser plus de commentaires sous des publications qui existent en lien avec le conflit. Une façon de moins attirer l'attention des systèmes de polissage des réseaux sociaux. Et je termine avec cette initiative de la CIA pour recruter des informateurs russes en utilisant Instagram. Si vous êtes abonné au compte Instagram de l'agence américaine de renseignement comme moi, vous avez peut-être remarqué la publication en russe sur le compte de la CIA lundi. Sur le coup, je me suis demandé si le compte n'avait pas été piraté, mais après avoir utilisé Google Translate, j'ai bien vu que c'était bel et bien la CIA qui interpellait les Russes qui voudraient partager des informations sans risquer de se faire prendre en suivant des instructions très précises pour les contacter. Et quand on dit des informations très précises, on parle notamment de l'utilisation du furteur Tor et de l'utilisation d'un bon VPN. L'agence va même jusqu'à partager un lien vers un canal dédié aux informateurs qui veulent les contacter. La CIA dit que depuis le début du conflit en Ukraine, de plus en plus de Russes mécontents ou inquiets tenteraient d'entrer en contact avec eux. Toujours selon la CIA, l'utilisation de ces mêmes procédures sur le territoire russe peut également servir à accéder à des informations crédibles non censurées par l'administration du Kremlin. Alors voilà qui fait le tour de mon survol de l'information en direct du front numérique du conflit ukrainien. Il y a un groupe de 7 personnes, des Québécois, qui travaillent de près dans le domaine du métavers, qui voudraient bien voir ce secteur prendre du galon au Québec. Et pour attirer l'attention sur le sujet, ils ont publié le manifeste du métavers québécois. Et maintenant, ils demandent aux gens qui partagent leur intérêt envers le métavers de signer ce manifeste. Pour en savoir un peu plus sur leur démarche, sur le manifeste en tant que tel, je vous propose de rencontrer Bertrand Neveu. Il est un des auteurs du document. Bonjour Bertrand Neveu.
Bonjour Bruno.
Bertrand, je vous présentais, vous êtes un des 7 auteurs du manifeste du métavers québécois. Pourquoi vous sentez qu'il y a un besoin? Là? Pourquoi c'est important d'en parler maintenant?
Pour plusieurs raisons. Tu sais, je dirais que moi, ça fait quand même à peu près 17 ans là, que je suis un peu dans le milieu du AR/VR, Metaverse. Et puis, on voit qu'il y a un point d'inflexion en ce moment qui se passe. Si on regarde les Oculus Quest, qui pour moi est vraiment le modèle un peu console, facile à utiliser, pas cher, ben tu sais, sont rendus environ 10 millions d'unités. Ma belle-mère qui l'utilise facilement pour jouer à Myst. Donc, je vois vraiment que là, c'est comme monsieur, madame, tout le monde peut s'intéresser, c'est accessible. Et puis, ben, c'est pas pour rien que Facebook a renommé son nom à Meta Platform. Eux, c'est leur vision à long terme de faire une transition vers une plateforme mobile 2.0, bon, ou même 1.0 avec leur browser vers le 3.0, qui est le métavers. Et puis, il y a tellement... Moi, j'ai eu le privilège de travailler chez Apple dans la Silicon Valley pendant 3 ans. J'ai vu le nombre d'investissements qui se fait. C'est ahurissant, vraiment. Et puis, si on ne veut pas se faire vraiment dicter les règles par les GAFAM, ben il faut, pendant que c'est encore accessible en ce moment, les investissements qu'on fait aujourd'hui vont être tellement plus payants que si dans 2-3 ans, on se réveille puis là, on dit « OK, il faut se rattraper ».
Parce que là, je vous arrête. Tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, c'est, puis vous avez raison, on est à un moment charnière du métavers. Mais pourquoi un métavers québécois aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui?
Mais parce qu'on a, une culture différente, on a des valeurs différentes, et puis il faut fédérer les gens autour d'un projet commun où, en ce moment, on l'a vu durant la pandémie, les gens vont sur Amazon, les gens, tu sais, ils sont très dépendants des technologies américaines, et puis ça va juste s'accélérer dans le futur. Et puis, il faut que les acteurs d'ici décident de collaborer pour créer un écosystème et un métavers qui nous ressemble, où les gens, ils vont pas juste jouer, ils vont aussi magasiner, ils vont aussi... L'éducation, là, c'est un gros sujet. Les gens ont lu Grégory Charles, c'est revenu sur la place publique, tout ça. T'sais, d'apprendre à travers un médium comme le métavers, ça décuple les possibilités. Ils ont montré que l'attention est 6 fois plus élevée que par d'autres médiums. Donc, c'est vraiment une opportunité unique, puis c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, c'est pour ça qu'on le pousse en ce moment.
Récemment, je faisais une entrevue avec quelqu'un du fonds des médias qui regarde, qui fait de la prospective. Et avec cette personne-là, je mentionnais que je posais la question, pourquoi on ne devrait pas avoir un métavers canadien? Justement pour s'assurer que les créateurs canadiens puissent à quelque part aussi faire respecter leur création. Parce qu'on le sait, sur Internet, on le vit depuis longtemps, là, vous créez quelque chose, du moment que c'est hébergé sur un endroit qui est ailleurs qu'au Canada, ben, vos droits courent après parce que ça va être difficile de les faire respecter. S'il y avait un métavers canadien, ce serait déjà moins complexe. Et là, je vous vois arriver avec votre réflexion. Si on a un métavers québécois, ben là, on peut s'assurer qu'au moins que les lois québécoises et canadiennes pourraient s'appliquer dans ce contexte-là. Mais si on va plus loin, est-ce que vous avez l'impression que, sachant que, puis ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine du numérique au Québec, là, est-ce que la façon de faire québécoise, la culture québécoise, l'approche par rapport à la création numérique fait que le métavers québécois pourrait être différent, pourrait avoir quelque chose de différent par rapport à... Vous parliez là, de Facebook qui investit énormément. C'est probablement le seul métavers que la plupart des gens connaissent jusqu'à maintenant pour ceux qui sont mis un casque sur la tête. Là. Est-ce que vous pensez que le métavers québécois pourrait être différent?
Oui, tout à fait. T'sais, je crois que on a eu plusieurs projets de société. Bon, je vais parler du Québec, là, mais je pense que le Canada aussi a tout à bénéficier d'une transition vers le métavers qui nous représente. Mais le Québec, tu sais, historiquement, a quand même été très progressiste. La qualité de vie est souvent une des priorités les plus importantes. Il y a eu les garderies à 5-7 $, ainsi de suite. Donc, je crois que ces valeurs-là sont européennes aussi. Tu sais, on est quand même... je faisais un topo sur le métavers à la semaine numérique il y a quelques semaines. Puis, souvent, je le voyais en Californie, tu sais, le Québec et Montréal, c'est vu un peu comme une transition vers l'Europe.
Tu sais,
c'est l'Europe en Amérique, exact. Puis moi ça m'allume, ça, ces valeurs-là, l'Amérique, c'est beaucoup la productivité avant tout. L'Europe, c'est la joie de vivre, la qualité de vie. Puis nous, on est un peu entre les deux, puis on essaie de balancer tout ça. Puis je pense que ces valeurs-là, c'est des valeurs qui peuvent être utilisées par plein de gens. Donc, moi, je vois l'opportunité de commençons avec notre petit écosystème, trouver les règles qui fonctionnent, puis allons à l'exportation. Là, moi, je pense que c'est ça la force de Silicon Valley, c'est qu'ils ont la masse critique pour tester la technologie, puis là, après ça, ils l'exportent, puis c'est là que toute la valeur est créée. Donc, c'est un peu ça mon idée en arrière de ça, c'est commençons ici au Québec, fédérons les gens, trouvons un peu la recette qui fonctionne, puis après ça, allons à l'international avec, en commençant par le Canada, bien sûr.
Ouais. À l'intérieur du manifeste, vous mentionnez le souhait de voir en 2022 un sommet du métavers québécois. À quoi servirait ce sommet et qui vous voyez participer?
Une très bonne question. J'ai été agréablement surpris de l'engouement du milieu. Nous, on a commencé un petit peu avec des acteurs initiés, si on veut, dans le milieu de ça. On a fait le lac à l'épaule, on est arrivé avec des idées qu'on pense qu'elles allaient résonner avec les gens. Et puis, j'en ai parlé un petit peu à la semaine numérique. Après ça, je l'ai mis sur change.org parce que pour la facilité d'accessibilité et tout. Puis les gens, ils l'ont beaucoup partagé, premièrement. Donc ça, j'étais super, super satisfait de ça. Et puis, il y a plein d'acteurs qui m'ont contacté, dont vous, qui ont dit, ben nous, le sommet, on y croit, puis on aimerait ça soit... Écoute, il y a Digihub à Shawinigan, ils ont dit, moi, je suis prêt à le faire chez nous. Il y a la SAT, moi, je suis prêt à le faire chez nous. Il y a le CIM. Donc, tu sais, moi, je dis, wow, c'est super. T'sais, pourquoi pas faire un sommet multi-ville en même temps avec la technologie? Ça serait possible pour rendre ça encore plus accessible. Donc, c'est un peu ça. Puis, c'est qui les acteurs? Ben c'est des gens qui veulent s'impliquer. Dans le fond, nous, on veut pas discriminer. Donc, moi, je commençais plus par faire quelque chose de plus large, genre, vous êtes un simple citoyen, vous trouvez ça une super bonne idée, vous donnez votre appui, mais j'aimerais ça créer peut-être un petit... j'aime bien Discord, là, fait que peut-être créer un petit Discord puis dire aux gens, si vous voulez vous impliquer activement, venez sur le Discord puis on va organiser ça ensemble, le sommet.
Est-ce que ça devrait déboucher? Parce qu'à un moment donné, dans votre document, vous parlez d'un plan stratégique pour le Québec. Est-ce que vous allez jusqu'à vouloir que, une fois que le sommet aura lieu, on mette en branle un plan stratégique du Québec?
Oui, tout à fait. Ben, c'est pas, il y a d'autres provinces, il y a, tu sais, en Europe, en Corée du Sud, ils mettent déjà en place des stratégies. Donc, c'est sûr que nous, on va être le plus inclusif possible. C'était vraiment ça qui était important pour nous. C'est ça, on a commencé par un petit groupe restreint, mais on veut que ça soit inclusif. Donc, on veut pas être dans notre petite bulle puis penser qu'on a la vérité. Donc, c'est sûr qu'on veut faire le sommet, avoir le plus de chocs d'idées possible, puis après ça, mettre ça en action à travers un plan ou peu importe. Puis, il faut que ça soit comme toutes les... Que ce soit autant le secteur privé que la recherche, que le gouvernement qui embarque. Parce que si on regarde les stratégies, même les stratégies de jeux vidéo, tu sais, ça a été Bernard Landry qui a pris la balle au bon puis qui a décidé. Donc, il faut que ça vienne de tous les acteurs qui peuvent amener quelque chose d'intéressant à la table.
Dans le manifeste, on parle d'un délégué général du métavers. Vous le voyez où? Est-ce que ça ressemble à l'innovateur en chef du Québec ou est-ce que c'est quelqu'un qui serait le porte-parole de l'industrie ou des gens qui croient au métavers au Québec? Qu'est-ce que ça serait?
Bien, je pense que ça, c'est une très bonne question. Puis ça reste un peu à définir justement avec les acteurs. Donc, tu sais, on n'est pas là vraiment pour imposer notre façon de faire. Après ça, ça comme vous dites, tu sais, ça peut être... comme le
l'innovateur en chef.
C'est Luc Sirois, là, l'innovateur en chef. Bon, donc, ça peut être sous cette forme-là, mais ça peut être plus même un représentant à l'étranger pour partager les valeurs puis collaborer. Tu sais, la beauté d'un métavers, nous, on le croit puis on le met dans le manifeste, c'est que ça soit ouvert. Donc, idéalement, on veut que notre métavers soit ouvert, mais on voudrait aussi que les autres métavers soient ouverts. Puis moi, je crois vraiment, tu sais, je suis un grand fervent de la diversité. Là. Je pense que la diversité, c'est une ressource incroyable. Donc, le plus que de gens collaborent de différents pays aussi, je pense que ça va juste enrichir la vie de tout le monde.
Et d'ailleurs, à un moment donné, à le manifeste, vous parlez de presque utiliser le Investissement Québec international pour devenir un levier pour le métavers québécois.
Tout à fait. Tu sais, le but, c'est pas de réinventer la roue. Le but, c'est de... Il y a la SEDEC, il y a le fonds, le FMC. Il y a tellement de belles institutions au Québec, au Canada, qu'on peut utiliser pour un peu fédérer tout le monde puis tirer dans la même direction. Puis le sommet, ça va un peu nous dire dans quelle direction qu'on tire. T'sais, on peut faire ça de différentes façons. Puis c'est pas parce qu'on a moins de ressources qu'on peut pas les utiliser de façon plus efficace. Donc, c'est juste, il faut arriver à place que ça soit un petit peu, excusez l'expression, un free-for-all, tout le monde fait des choses chacun de leur côté. Mais non, arrivons comme, trouvons des champions, les épauler, puis les amener, puis créer du maillage entre les différents acteurs. On croit que c'est ça qui est la clé du succès. Là.
Et d'autant plus que je regardais dans la liste des signataires, et je vous inclus là-dedans, il y a pas mal de monde des auteurs du manifeste, il y a pas mal de monde qui œuvrent déjà dans le métavers, qui ont déjà une expertise intéressante. Je pense à des gens de Félix et Paul, des gens de Unreal, des gens d'Arcadia, de Behavior. C'est autant de gens qui s'intéressent, qui faisaient partie de l'équipe de rédaction du départ. Là. Écoutez, entre-temps, là, il y a une pétition, vous le disiez, qui est sur change.org. Quelqu'un qui est intéressé par la chose peut se rendre là, peut vous appuyer concrètement en signant la pétition. Mais par la suite, si on veut suivre, en attendant que le sommet du métavers soit annoncé, là, si on veut suivre votre mission, comment on peut vous suivre?
C'est ça. Nous, on voulait rendre ça le plus facile possible. On a créé metaquebec.org. Okay? Donc, en ce moment, ça redirige vers la pétition de change.org. Donc, première chose, signez-le. Nous, on va faire toutes nos communications par ça. Et puis, on va aussi créer, comme j'ai dit, un Discord pour que les gens... Il est déjà créé, là, mais on va justement le partager à travers la liste de change.org pour que les gens qui veulent s'impliquer peuvent s'impliquer. Et puis, ensuite, après ça, on verra comment on va communiquer tout ça. C'est encore, comment je pourrais dire, là, tout embryonnaire, tout ça. On veut pas vraiment dicter la façon de faire. Donc, on veut juste que les gens participent et se sentent inclus dans ce mouvement-là. Donc, on commence par aller à metaquebec.org. Et puis, on va voir pour la suite.
Bon, ben voilà, le message est lancé. Bertrand Neveu, un des 7 auteurs du manifeste du Métavers québécois, merci pour l'initiative et puis on va vous suivre dans les mois à suivre. Merci.
Merci Bruno d'avoir pensé à nous.
En septembre prochain, Behavior Interactive aura 30 ans. Mais ça ne les empêche pas de commencer dès maintenant à célébrer en ouvrant un nouveau studio à Toronto. Behavior Interactive, c'est le studio derrière plus de 150 titres, dont les plus récents, je pourrais mentionner Game of Thrones, Beyond the Wall, ou encore Rainbow Six Extraction ou Far Cry 5 qu'ils ont produit avec Ubisoft. Ou, évidemment, le grand succès de Behavior, Dead by Daylight. D'ailleurs, ce jeu, cette année, a atteint plus de 50 millions de joueurs toutes plateformes confondues. Alors, je me suis dit que c'était un bon moment pour inviter son cofondateur et actuel PDG. Bonjour, Rémi Racine.
Bonjour.
Rémi, c'était quoi l'idée en 1992 de se lancer dans le jeu vidéo? Parce que c'était pas vraiment très populaire à l'époque. Là.
Bon, l'idée, c'était pas... D'abord, c'est quelqu'un qui m'a approché et qui voulait faire des jeux. C'est pas mon idée à la base. Puis moi, j'étais en immobilier, je gérais des édifices commerciaux à ce moment-là, à mon compte. Ça allait relativement bien, mais j'étais pas vraiment excité. Puis j'étais un entrepreneur, il faut savoir là, que j'étais un entrepreneur à la base. Puis j'étais pas vraiment excité par ça, puis c'est une business qui est très, très locale. L'immobilier, en tout cas dans mon cas, moi, à ce moment-là, c'était au Québec. Puis j'étais un gamer, puis c'est comme ça que ça a commencé. Là. C'est genre, on va aller faire ça, puis... Rapidement, 2 ans après, ma business de consultation en immobilier est parti. J'étais à plein temps dans les jeux vidéo.
Fait que ça vous a pris 2 ans pour voir le potentiel qu'il y avait là-dedans?
Non, ça a pris moins de temps que ça, mais j'avais les deux en parallèle les 2 premières années.
Mais 2 ans après, vous étiez convaincu?
Oui. Mais tu sais, le temps que tu... au début, financièrement, je pouvais pas laisser ma business d'immobilier. C'était ça l'enjeu, là. Fait que j'ai gardé les deux en parallèle pendant à peu près 2 ans.
30 ans en septembre prochain pour Behavior, j'ai l'impression que commencer à faire à être un des plus vieux studios sur la planète qui s'intéresse aux jeux. Là. C'est pas seulement au Canada. On en a vu dans les dernières années, il y en a plein là, qui sont arrivés. La moyenne, quand on parle des vieux, ils ont 15-20 ans. Mais là, 30 ans derrière la cravate, là, ça commence à faire du temps.
Oui, mon partenaire chinois NetEase, il a commencé en 2000 ou en 99. Il est plus jeune que moi. Là. Lui, il a 25. Il me semble qu'il a 25 ans, 26 ans. Oui, 30 ans, là, on est dans les plus vieux. Mais tu sais, Electronic Arts, Activision, c'est des compagnies plus vieilles que nous autres. Take-Two, là, son ancêtre qui est GT Interactive, ça a commencé à début des années 90. Ubisoft était là avant nous autres aussi. Ils ont commencé, eux autres, ça fait plus que 30 ans.
Il y avait les frères Guillemot à l'époque, là, mais ça...
C'est ça, je pense que ça s'appelait... Quand on est arrivé à Montréal en 97, il s'appelait Ubisoft, mais ça faisait...
C'était récent.
Ça faisait quasiment 10 ans qu'ils ne faisaient pas vraiment de production de jeux, par exemple. Ils ont commencé vraiment à faire de la production de jeux à peu près dans les années où on commençait à Montréal. Là. Ils venaient de commencer à faire de la production de jeux. Ils étaient surtout distributeurs, eux autres, en Europe.
Rémi, je ne me trompe pas, là, on fait un petit peu dans la nostalgie. Là. Le premier jeu qui avait été signé par votre studio, c'était quelque chose comme Jersey Devil ou quelque chose qui ressemble à ça. Vous souvenez-vous?
Ça, c'est en 98.
Ouais, vous souvenez-vous de ça?
Ben, très bien. Ça ne peut pas être plus tard dans mon esprit.
Est-ce que ça avait été périlleux comme aventure?
Oui, ça avait été périlleux. Là. Écoute, ça avait bien fini parce que nos revenus ont dépassé les coûts. C'est l'objectif, là. Ça avait été super bien, mais oui, ça a été périlleux de sortir le jeu en temps, avec le moins de bugs possible. Puis ça, on n'était pas. Sony nous avait super bien appuyé, c'était notre distributeur, notre éditeur. Il avait été formidable, mais il était habitué de travailler. Eux autres aussi commençaient. Là, la PlayStation 1, ça a commencé à sortir en 95, ça fait qu'ils commençaient les. Écoute, chez Sony, je pense qu'il reste, de mémoire, je pense qu'il reste une personne de ces années-là à San Francisco.
Mais c'est ça, et c'est pour ça que je dis, quand on parle d'un c'est le cas, je fais pas de jeu de mots, là, mais quand on parle d'un joueur dans l'industrie qui a 30 ans, c'est énorme, là. C'est les tout débuts des consoles. Là.
C'est énorme. Non, c'est énorme. Je le sais que c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est drôle parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'appellent. J'ai parlé à quelqu'un vendredi passé. Là, ça faisait peut-être 10 ans que je n'avais pas vu. Là, puis là, il m'a envoyé un message sur LinkedIn. Je peux pas croire, je n'ai pas changé d'adresse e-mail depuis, écoute, en tout cas, de mémoire d'homme, là, ça fait longtemps. Là. Mais, puis là, il me parle de ce qu'il fait. Puis il avait pas. Il savait qu'on était beaucoup plus gros qu'on était, mais il ne savait pas comment gros on était. Mais lui, il était là dans les... Moi, j'ai rencontré cette personne-là. C'est un ancien exécutif de Warner, fin des années 90, là, début des années 2000. Il était au BizDev. Là, puis là, il a fait d'autres choses après. Là, puis là, il a son propre studio. Mais il y a encore des gens de ces années-là. L'industrie a tellement grandi que tout le monde est encore là. Parce que les gens ne sont pas si vieux que ça. Là. J'ai 58. Là, je suis dans les plus vieux, tu sais. Fait que... Les gens sont encore là, mais l'industrie a fait fois 20. Fait que ils sont éparpillés partout.
Quand vous regardez ça, Rémi, puis je sais qu'on pourrait en parler pendant... Vous pourriez donner un cours à l'université là-dessus, hein, mais qu'est-ce qui a énormément changé depuis 30 ans?
Oh, le fondamental, c'est la distribution. La distribution physique par rapport à la distribution digitale, là, ça a transformé l'industrie. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait entre 5 et 10 ans là, que la transformation s'est faite. Là. Avant ça, c'était des boîtes. On vendait des boîtes.
Ah, puis il fallait se battre pour le real estate dans les magasins.
Ouais, là, puis il y avait, tu sais, tu allais chez Walmart, là, puis il y avait, c'est pas 80 jeux qui étaient sur PlayStation. Là, il y en avait un facing, puis il y avait la même affaire sur Nintendo. Puis Il y avait la même affaire sur les DS. Puis si t'étais pas dans les 80, c'était fini. C'était. Fait que ça, les brands étaient bien importants. Aujourd'hui, les brands sont moins importants. Ils sont importants encore, là, surtout sur mobile, un peu moins sur PC console. C'est une grosse transformation. Avant celle-là, les jeux gratuits, à partir de 2008, 2009, 2010, là, ça a commencé le phénomène des jeux gratuits. Là. Ça aussi, c'est un gros changement, mais ça, c'est le modèle d'affaires. Puis ça, le modèle d'affaires, il a toujours pas mal évolué. Fait que ça, moi, j'ai vu plusieurs modèles d'affaires. Là, au début, les éditeurs, ils faisaient vraiment pas de forecast. C'était comment ça coûte faire un jeu. Après ça, c'était dans les années 90. Rendu dans les années 2000, il y a le phénomène de forecast a commencé. Je peux en vendre 400 000 de ça, je vais te donner 4 millions. Je fais des chiffres, là, mais... Puis là, il y a eu la rigueur. On va faire des forecasts. Puis là, les forecasts allaient plus loin. C'est que c'est Walmart qui disait, je vais t'en acheter tant. Fait que ça allait Walmart, Best Buy et compagnie. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Les forecasts, c'est une autre science. Les modèles d'affaires ont beaucoup changé. Les éditeurs avaient une grosse infrastructure de distribution. Là. Les Ubisoft de ce monde, là, puis les Take-Two, les Activision, là, il y avait du monde partout sur la planète. Tout ça, c'est... Il reste très peu d'éditeurs physiques. Les distributeurs physiques, il en reste très peu. Tout le monde passe à travers les mêmes canaux. Dans le fond, il y en a deux en Europe, il y en a deux en Amérique du Nord, puis tout le monde passe par ceux-là. Ça a beaucoup changé.
Une chose qui a changé beaucoup chez vous, ça a été l'importance qu'a pris vos propres jeux, vos titres à vous. Tu sais, je pense au gros succès que vous avez, là, Dead by Daylight. Je pense que c'est le plus beau symbole de l'importance que ça a pris puis de la qualité que vous avez mis dans la production de titres qui vous appartiennent. C'est ça aussi. Tu sais, au début, vous avez toujours travaillé pour les autres, mais à un moment donné, vous avez décidé de créer pour vous.
Oui, mais là, les gens ne réalisent pas qu'on s'est essayé souvent.
Qu'est-ce qui ne marchait pas?
Ben, peut-être qu'on ne mettait pas assez d'argent. Peut-être qu'on n'était pas assez équipé à ce moment-là. Mais, écoute, on a essayé plusieurs fois. Là. Il y en a eu des essais là, de Jersey Devil aller à Scalar, puis à Wet. À Naughty Bear, tout ça, c'est des essais qui... Bon, c'est tous des essais qui ont pris 2-3 ans chaque. Bon, Naughty Bear, on en a fait deux, là, puis on n'a pas perdu d'argent. Puis Jersey Devil non plus, on en a fait un profit. Mais on n'a pas réussi à en faire un deuxième, Jersey Devil. Sony n'en voulait pas. Il avait décidé qu'il y en avait un autre platformer qui était... Il était fait par Naughty Dog. Le premier jeu de Naughty Dog, là. En tout cas, c'est un grand jeu. Là. Fait qu'ils ont décidé que c'était celui-là qui était leur symbole. Et là, on a un autre. Ça ne me revient pas. Là, c'est un gros jeu. Là. Fait qu'on s'est essayé, mais tu sais, comme Wet, c'était vraiment un essai. Là, on n'a pas assez proche. On a vendu 1,1 million. Ça avait été quand même bon, mais pas assez. Il fallait en vendre 2 millions pour avoir un IP. La même chose pour Naughty Bear. Sur Naughty Bear, on a fait un peu de profit, mais c'était pas assez. Mais Naughty Bear, c'est vraiment l'ancêtre de Dead by Daylight. Parce que là, on jouait dans le... si on avait pu en 2010-2011, on aurait fait un jeu multijoueur avec Naughty Bear. Parce que là, il y avait encore du AI, et puis là, évidemment, c'était pas sophistiqué, là, puis on n'avait pas des grosses productions. La grosse évolution de Dead by Daylight, c'est que là, c'était quatre joueurs contre un vrai joueur. Quatre humains contre un autre, puis on joue à cachette. C'est ça le principe du jeu. Puis tout le monde connaît ça. Fait qu'il y en a un qui court après quatre autres. T'sais. Puis c'est comme à cachette, quand tu te fais découvrir, quand t'es la personne cachée, tu te fais découvrir par celui qui court après, qui te cherche, tu restes bête. Tu cries, tu...
Je ne l'ai jamais aussi bien entendu décrit. Merci. Rémi, Behavior, c'est dans le jeu, mais plus récemment, vous avez commencé aussi à vous intéresser à des solutions d'affaires. Je pense que ce serait quoi le terme? La ludification du monde des affaires. Comment vous voyez ça?
Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est que on prend le know-how, les technologies de jeu, puis on les applique à des problèmes d'affaires. Il y a des belles technologies dans le jeu qui peuvent être appliquées dans le domaine des affaires. Là, puis on commence à en avoir avec certains partenaires. Là, ça coupe les coûts pour les entreprises. Écoute, dans le fond, on utilise la simulation en temps réel avec des engins comme Unity puis Unreal. On travaille avec les deux. On travaille beaucoup avec Unity parce qu'on les a comme clients. On fait des projets où Unity nous embauche, mais il y a un client derrière Unity. Puis sur Unreal, on est en direct avec certains clients. Mais on utilise la technologie d'Unreal, puis on essaie de on aide nos clients à utiliser ces technologies-là dans leur environnement d'affaires. Puis dans ça, il y a toujours de la simulation. Où il y a du rendering rapide. Tu sais, ce qu'elle fait, c'est qu'on est capable de faire ça en temps réel, puis bien, ça aide les entreprises. C'est une business qui a énormément de croissance. Ce segment-là a énormément de croissance, mais c'est très petit par rapport au jeu. Fait que nous autres, c'est notre plus petite unité d'affaires, mais elle peut croître à 40-50% par année parce que le marché grandit vite.
Ben, c'est la différence entre le B2B et le B2C. Mais je vais vous amener ailleurs. Ça fait des années qu'on voit apparaître dans les pages financières comme étant, puis là, ça dépend des années, là, vous gagnez ou meilleur endroit pour travailler ou meilleure gestion. Dans ces deux qualificatifs-là. Là,
Bruno, on gagne les deux. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Là. On
gagne oui, ben c'est ça que j'allais vous dire. Mais entre les deux, lequel vous tient le plus à cœur?
Moi, je pense que gagner le meilleur environnement d'affaires nous fait gagner les entreprises les mieux gérées. Fait que, étant donné qu'on crée un environnement d'affaires extraordinaire pour l'équipe, pour le monde, c'est ça qui nous fait gagner les entreprises les mieux gérées. Et non l'inverse. Fait que c'est très important de gagner les entreprises où c'est le plus plaisant de travailler, le plus fun à travailler, que de gagner les entreprises les mieux gérées, parce que je pense que t'es obligé de faire le premier avant de faire le deuxième. Fait que pour moi, gagner les entreprises les mieux gérées, c'est le fondamental de ça, c'est de créer un environnement où tout le monde a du fun à travailler.
Mais quand on est le grand gagnant de ce titre-là et qu'on passe à travers 2 ans de pandémie où tout le monde, où ça éclate, là, on se retrouve tout le monde en télétravail. On dit toujours que chez vous, ce qui est probablement encore le cas, là, mais justement, c'est l'atmosphère de travail, c'est la philosophie, c'est le côté humain. Il y a beaucoup de respect chez vous. Comment ça se vit? Comment on arrive à adapter ça au monde qu'on a vécu là, et dans lequel on vit encore?
On s'adapte vite. Moi qui étais contre à 100% de travail à la maison, okay. En mars 2020, là, je pense qu'on avait 3 personnes sur 550 ou quelque chose comme ça qui travaillent de la maison. Ça fait que c'était pas un phénomène important chez nous. Puis du jour au lendemain, on s'est retrouvé qu'on avait 6 employés au bureau puis tout le monde à la maison. Parce qu'il y avait juste des gens d'IT qui étaient au bureau. Là. Bon, ça a été... d'abord, au début, on était super prêts. On avait eu notre associé chinois, NetEase, nous avait fait un gros warning dans un conseil d'administration au mois de janvier pour nous dire « Préparez-vous, ça s'en vient. Ça va être une pandémie. » Et il est arrivé avec des analyses, puis tout ça, là, c'était pas juste... il avait travaillé là-dessus, eux autres, puis évidemment, c'était commencé en Chine. Il avait envoyé le monde à la maison. Fait que nous autres, on a eu ces 4-5 semaines-là pour se préparer. Quand la journée que le gouvernement a tiré sa cloche, nous autres, le lendemain, tout le monde était à la maison. Les ordinateurs, je pense qu'on était dans une 24 heures. Fait qu'on était prêts. On a toute une équipe d'IT qui a tout fait ça. Fait que je peux dire qu'on est parti sur le bon côté. Puis là, bien, on s'est adapté. On fait beaucoup de rencontres avec les employés. On force nos gestionnaires à, à, à faire beaucoup de rencontres avec les employés en utilisant Teams, là, ou Zoom, là, mais nous autres, c'est Teams, là, mais... puis, on essaye de... Il y a des gestionnaires même qui font des rencontres, ils n'ont aucun sujet, ils font juste dire, écoute, on va prendre 15 minutes à tous les semaines pour juste se parler. Fait, comme si on était au café.
Mais vous, comme grand patron, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là?
Ben, j'en ai fait... moi, je passe mes journées en Teams. Fait que là... moi, je fais quelque chose, c'est que je déjeune avec tous les employés sur une base annuelle. Fait qu'il faut que je fasse le tour de tout le monde. Fait que j'ai par groupe de 10.
Ouais, mais là, vous êtes, ben ouais, mais là, vous êtes quasiment rendu à 900.
Ça me fait 90 déjeuners. Puis, je fais ça pendant 30 semaines, 35 semaines par année. Fait que divise-le, là, j'en fais 2-3 par semaine dans ces semaines-là. Puis, je fais tous les nouveaux, puis tous les stagiaires. Fait que tous les nouveaux, une fois par mois, puis tous les stagiaires, trois fois par année. Mais eux autres, je les réunis dans le groupe qui sont. Là. C'est-à-dire que là, c'est pas limité à 10. Là. Les stagiaires, on en a 40-50 par session. Là. Je les ai 40-50 en même temps. Pendant une heure. Donc, ils peuvent me poser toutes sortes de questions. Puis c'est, souvent, c'est les questions... Les nouveaux posent souvent les questions les plus... je vous dirais les plus... les moins prévisibles. Elles sont bonnes, les questions, là, mais c'est les moins prévisibles. C'est... pourquoi on fait telle affaire, t'sais? Oh my God, je n'ai jamais eu cette question-là. Puis je réponds à la question. Mais j'adore ça, faire ça. Puis je pense que communiquer avec avec l'équipe, c'est primordial. Et encore plus là que quand on est au bureau. Parce qu'au bureau, ils te voient te promener dans le bureau. Les gens te voient, là, mais là, ils ne te voient pas. Donc, c'est la seule façon pour moi de tenir un contact.
Et là, vous avez décidé, ben, vous avez annoncé la semaine passée que vous alliez commencer à avoir des petits déjeuners avec des gens à Toronto. Oui. Parce que vous ouvrez un studio là-bas. Stratégiquement, pourquoi?
Mais d'abord, on a 50 personnes en Ontario depuis le début de la pandémie. Fait que là, ça, la prémisse d'abord, c'est qu'à un moment donné, on a réalisé qu'on était rendu à presque 50. On était à 40 quelque chose quand on a décidé d'ouvrir à Toronto. Parce que tu sais, tu prends une décision 6 mois d'avance, là, faut que tu trouves un... On est allé voir des bureaux, je pense, à l'automne. À un moment donné, on a pris la décision à l'automne. Puis, écoute, c'est vraiment le fait que d'avoir 40 quelques employés qui nous ont dit, ben là, à un moment donné, ça va arrêter la pandémie. Et puis, il y en a des gens qui vont vouloir travailler au bureau. Non, mais il y en a des gens qui vont choisir ça. Fait que si le ratio au Québec, c'est à Montréal, c'est 60 % des employés qui vont venir tous les semaines au bureau. Là. Mon espérance, c'est que ça va monter à 80, là, mais en ce moment, là, nos sondages internes, c'est 60. Là, je me dis, bon, ben là, ça veut dire qu'en Ontario, là, je n'ai 50, là, il y en a 30 qui vont devoir travailler au bureau. Wow, si on n'a pas de bureau, là, il y en a là-dedans qu'on va perdre. Fait que, on regardait d'abord, ils ne sont pas tous dans le Grand Toronto. Ça, c'est. Fait que là, j'en ai 40 sur 50 qui demeurent dans le Grand Toronto, mais j'en ai 10 qui sont en dehors de la... Les autres, ils vont être loin. Mais pour les gens, là, j'en ai 10 qui sont proches. On a choisi un bureau dans le centre de Toronto, là, dans le quartier où il y a tout le monde des compagnies de jeux vidéo, puis la pub, puis tout ça sont dans ce quartier-là. Là. Mais finalement, il y en a 10 qui peuvent y aller à pied. Parce qu'ils restent là, c'est ces gens-là. Là. Puis il y en a qui vont y aller, il y en a qui me l'ont dit dans les breakfasts, moi j'assais out. Écoute, il y en a un qui m'a dit, moi je vois le bureau. Il y a une fille qui m'a dit ça, une fille au marketing, elle m'a dit, moi je vois le bureau de mon appartement, je peux même, je vais tourner la caméra, c'est le building qui est juste là. Mais eux, elle va y aller. Fait que la raison pour laquelle on ouvre en Ontario, c'est que c'est pour ça. La deuxième chose, c'est que monter à 100-200 personnes en Ontario, pas si difficile que ça. Fait que faut... À un moment donné, on a besoin de beaucoup de ressources. Montréal, on va continuer à embaucher comme des fois à Montréal, mais on va en embaucher à Toronto. Puis il y a des gens qui ne veulent plus venir. Une des affaires, c'est qu'on est. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé de l'Ontario qui venaient travailler chez nous. Là, ils ne veulent pas déménager. Fait que la façon de les embaucher, c'est de les embaucher en Ontario.
Et l'ADN du studio de Toronto, est-ce qu'il va être particulier?
Non, ça va être. Ils vont travailler sur. On ne fera pas de projet de Toronto à court terme. Là. Ils sont comme les 50 actuels, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur tous les projets de l'entreprise. Puis ils vont. C'est pas dans nos plans de faire une équipe à Toronto là, dédiée sur un projet. Pas pour l'instant.
Rémi, est-ce qu'on se donne rendez-vous pour l'entrevue du 50e?
Non. non. J'ai 58. Fait que là, ouais. Ça, c'est dans 20
ans. Jeune homme encore.
Oui, mais c'est dans 20 ans, je vais avoir 78. Écoute, si je suis encore actionnaire de billets vieux, ça va être bien le fun, mais je ne serai pas le CEO, ça c'est sûr. Bien, on peut faire une entrevue dans 20 ans, mais on va parler du passé.
Mais entre-temps, là, vous allez rester là quand même un petit moment?
Oui. Oh, oui, je vais là, je travaille toujours 5 ans avant. Fait que j'ai un plan de 5 ans.
Donc, les 5 prochaines années, vous êtes là?
C'est ça que je dis à mon nouvel actionnaire. C'est ça que je dis à mes conseillers en stratégie. On est en train de refaire le plan de 3 ans. Fait que c'est ça que je dis à mon équipe. Ils sont obligés de travailler encore avec moi pendant 5 ans.
Je pense pas qu'il y a grand monde qui se plaint. Rémi Racine, président, producteur exécutif et cofondateur de Behavior Interactif. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis bon 30e anniversaire.
Merci, Bruno.
Salut.
Merci.
Autour maintenant de mes collègues, en commençant par Thierry Weber, qui, de sa Suisse natale, nous parle de Netflix et de Votation Suisse.
Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La loi Netflix, surnommée également l'ex Netflix, sera votée ce 15 mai par le peuple suisse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le suspense est bien palpable. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, cette votation propose une modification de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographique. Ce projet veut obliger les plateformes de streaming à financer la création de films et de séries suisses à hauteur de 4% de leur chiffre d'affaires réalisé dans le pays. Mais pourquoi taxer les plateformes de streaming et précisément à hauteur de 4%? Eh bien, en Suisse, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques ont déjà l'obligation d'investir 4% de leur chiffre d'affaires dans la création cinématographique helvétique. Ils doivent également proposer 50% de séries et de films produits en Suisse ou en Europe, un modèle qui existe à quelques variables prêtes à d'autres pays d'Europe. Près de la moitié des États européens ont introduit une obligation pour les plateformes de streaming d'investir dans la production cinématographique locale ou européenne. Le taux du chiffre d'affaires concerné varie d'un pays à l'autre. 1% au Portugal, 2% au Danemark, 5% en Espagne, 20% en Italie, voire 26% en France. Quelques États comme l'Allemagne, la Belgique ou la Croatie prélèvent une taxe versée aux institutions d'encouragement du cinéma. Celle-ci vient généralement s'ajouter à l'obligation d'investir. L'Union européenne contraint par ailleurs les services en ligne à proposer 30% de production européenne. Certains pays ont introduit un quota plus élevé ou un sous-quota pour la diffusion d'œuvres nationales. De plus, les plateformes de streaming actives dans l'Union européenne sont obligées de mettre en valeur les séries et films européens. Avec le développement des plateformes de visionnement en ligne, le gouvernement suisse souhaite étendre ses obligations. Le projet vise avant tout les géants du streaming comme Netflix, Amazon, HBO ou Disney. Le but est de soutenir davantage la production cinématographique suisse et de supprimer l'inégalité de traitement entre les chaînes de télévision et les services en ligne. 4% du chiffre d'affaires des plateformes réalisées en Suisse devront être investis dans la production de films et de séries suisses. Si les plateformes ne le font pas, elles devront payer une taxe équivalente en faveur de l'encouragement du cinéma helvétique. Cette règle s'appliquera également aux chaînes de télévision étrangères diffusant des publicités ciblant le public suisse. Ces nouvelles obligations devraient permettre de verser chaque année 18 millions de francs supplémentaires à la création cinématographique locale d'après les estimations de la Confédération helvétique. Cet argent est destiné aux films, documentaires ou séries réalisées par des entreprises suisses indépendantes ainsi qu'aux coproductions internationales avec une participation suisse. À 2 semaines des votations fédérales du 15 mai prochain, l'issue du vote sur la loi sur le cinéma reste incertaine selon le 2e sondage de la SSR. C'est principalement les régions de Suisse allemande qui risquent de faire basculer la tendance au oui initiée par les Suisses romands ou voire viser un 50-50, même peut-être envisager un non catégorique. Ce sont les joies de la démocratie et la faculté de mon pays, plantée en plein milieu de l'Europe, de ne pas faire comme tous ses pays voisins. Allez, rendez-vous est pris pour voir si une partie des abonnements de ces plateformes pourra aider la production suisse. Affaire à suivre. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse aux technologies qui pourraient apporter des réponses au problème de la pénurie de main-d'œuvre.
La pénurie de main-d'œuvre est un phénomène qui va persister bien au-delà de la pandémie. Cependant, si la situation semble préoccupante, elle offre néanmoins une opportunité pour les entreprises d'accroître leur productivité et d'attirer des travailleurs dans le long terme, en se tournant notamment vers les technologies innovantes. Au Canada, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas un phénomène provoqué par la pandémie, mais plutôt amplifié par cette dernière, déstabilisant ainsi une situation qui était déjà précaire. Pour en être convaincu, si jamais vous en aviez besoin, selon une étude conduite par la BDC en 2021, 55% des employeurs ont eu des difficultés à embaucher du personnel qualifié, et je suis persuadé que vous vous retrouvez dans cette statistique. Dans un article publié le 30 mars dernier sur le site web de Radio-Canada, Gérald Fillon écrivait que non seulement le vieillissement de la population est bien engagé, mais le Québec est l'endroit le plus frappé par ce phénomène parmi les provinces les plus populeuses au pays. Il y a urgence d'agir selon lui. L'effet structurel du vieillissement sur le marché du travail, sur la compétitivité de l'économie, la pénurie de main-d'œuvre et la capacité à croître n'est pas à sous-estimer. Et il ajoute que pour atténuer les répercussions, toutes les solutions doivent être explorées et possiblement utilisées. Pour atténuer les effets du vieillissement de la population, il faut miser sur une amélioration de la productivité, et ça passe par l'automatisation des investissements qui sont importants de la part des entreprises. Donc si plusieurs éléments structurels expliquent la pénurie que connaît le marché du travail aujourd'hui au Canada, on retrouve également des éléments contextuels liés à la pandémie, comme le fait que très peu de candidats appliquent sur des postes ouverts, et ceux qui le font et qui ne possèdent pas les compétences générales ou techniques recherchées, toujours selon la BDC. En outre, la fermeture des frontières au début de la pandémie, les rigidités institutionnelles, comme la reconnaissance lente et partielle surtout des compétences, ont considérablement réduit le nombre de nouveaux immigrants permanents et de résidents temporaires, particulièrement au Québec, selon la revue Gestion HEC de Montréal. Alors, quelles sont les solutions technologiques qui peuvent s'appliquer à la pénurie de main-d'œuvre? On va commencer par l'intelligence artificielle. Les technologies qui permettent l'IA, telles que la capacité de stockage et de traitement de données, progressent rapidement et deviennent de plus en plus abordables. Le moment semble donc venu pour les organisations de tirer parti de l'IA, en particulier de celles dites faibles. Une IA conçue pour effectuer des tâches spécifiques et répétitives. En entreprise, cela peut se traduire dans la robotisation des chaînes de production ou encore l'automatisation des tâches répétitives, libérant ainsi les travailleurs pour des tâches à plus grande valeur ajoutée. Toujours selon l'étude de la BDC, les entreprises adoptant les technologies permettant l'IA sont deux fois plus susceptibles de trouver l'embauche facile. Autre technologie, l'impression 3D ou la fabrication additive, okay, qui est un terme qui recouvre une multitude de processus et de technologies impliquant la production d'un large éventail de matériaux effectués couche par couche. Les usages de l'impression 3D sont multiples et ne cessent d'émerger chaque jour. C'est une technologie qui pénètre de plus en plus largement et profondément dans les secteurs de l'industrie, de la fabrication, de la consommation, ou encore dans les secteurs comme celui de la santé avec l'impression d'organes ou d'équipements médicaux, celui de l'aérospatiale avec l'impression de parties ou de composantes, ou encore le secteur de la construction dans lequel plusieurs entreprises ont déjà commencé à utiliser l'impression 3D pour construire une panoplie d'infrastructures comme des ponts piétonniers ou encore des logements et des espaces commerciaux. Bien que cette technologie doive encore surmonter de nombreux obstacles avant d'être largement adoptée, les entreprises de construction traditionnelles prennent conscience de ces avantages potentiels, notamment lorsqu'il s'agit de remédier à la pénurie de main-d'œuvre, puisqu'elle réduit considérablement le besoin de travailleurs. Petit exemple, celui de Bouygues, qui est une entreprise française qui, en partenariat avec l'Université de Nantes, a imprimé une première maison en 3D. Cette dernière mesure à peu près 1000 pieds carrés et elle a été réalisée en 3 jours seulement à l'aide d'un bras robotisé polyarticulé. Cette manière de procéder a démontré de nombreux avantages, comme la possibilité de créer des formes libres, la rapidité dans l'exécution, l'augmentation de l'efficacité de la main-d'œuvre, la réduction des coûts de production et la possibilité de construire des bâtiments plus durables, entre autres. Et cerise sur le sundae, la mise en œuvre de la fabrication additive modifie également l'environnement de travail en réduisant le nombre d'accidents et les risques pour la sécurité en raison de l'automatisation des processus. Autre technologie qu'il faut regarder pour adresser la pénurie de main-d'œuvre, la réalité virtuelle. Son utilisation en entreprise est de plus en plus commune. Elle sert à rendre les processus de recrutement, par exemple, ou d'intégration ou de formation, non seulement plus sûrs et efficaces, mais aussi plus amusants, améliorant ainsi l'expérience et l'engagement des employés et employeurs. Selon Forbes, la réalité virtuelle s'invite désormais dans les milieux de travail. Elle permet aux recrues de faire l'expérience virtuelle de ce que pourrait être leur vie au travail à travers des simulations de journées de travail et de visites virtuelles des bureaux. En les engageant de manière stimulante et amusante, les entreprises peuvent attirer et retenir des candidats plus qualifiés et hautement désirables. Encore en guise d'exemple, celui de MGM Resort, l'entreprise de renommée mondiale célèbre pour le Bellagio de Las Vegas, a équipé les postes de service à la clientèle dans ses centres d'emploi de casques de réalité virtuelle. L'entreprise a adopté cette technologie immersive afin de réduire le roulement des employés, les recrues pouvant ainsi découvrir les bons et les mauvais côtés du métier dans le secteur des services et de l'hôtellerie. Toujours dans le domaine des technologies aidant à la pénurie de main-d'œuvre, l'Internet des objets. L'IoT qui permet aux entreprises de devenir plus rapides, intelligentes, sûres et efficaces. L'IoT qui représente des bénéfices pour les employés en leur fournissant plus de flexibilité à travers l'optimisation de partage de données et en leur rendant des espaces de travail plus attrayants puisqu'ils sont entre autres plus sécuritaires. Les applications de l'IoT en industrie sont multiples, particulièrement dans le secteur manufacturier de la construction. On peut penser par exemple aux capteurs IoT qui permettent aux employés d'inspecter des manufactures sans devoir s'y déplacer. Ce genre de capteur peut également optimiser le fonctionnement de machines à travers la maintenance prédictive. Ce faisant, les coûts de maintenance baissent et les employés ne doivent plus se préoccuper de l'état des machines, pouvant ainsi se concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée. De plus, l'IoT peut également contribuer à l'amélioration de la santé et de la sécurité des employés en usine, comme par exemple avec les montres ou les casques connectés qui peuvent détecter lorsqu'un employé est en danger de blessure, l'alertant ainsi qu'il est temps de prendre une pause, par exemple, avant qu'il ne se blesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pénurie de main-d'œuvre est un phénomène qui va perdurer bien au-delà de la pandémie. Selon Statistique Canada, c'est au Québec que l'on retrouve la part la plus élevée de personnes âgées de 65 ans et plus, soit 20,6%. Et les personnes en voie de prendre leur retraite, les 55-64 ans, représentent 23,2% de la population en âge de travailler au Québec, contre 21,8% dans l'ensemble du pays. Il est donc important que les entreprises se dotent de stratégies pour contrer les effets négatifs de ce phénomène, en particulier les technologies innovantes qui peuvent aider à recruter et retenir des talents tout en réduisant les coûts et en optimisant les processus.
C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'expérience utilisateur de casque VR et de UX.
Ça m'intriguait. J'ai effectivement eu une invitation pour venir aller à Expo Entrepreneur cette semaine, faire une entrevue avec Mario Genet, qui est le cofondateur de i3D. C'était très intéressant parce que j'ai pu constater effectivement une expérience assez impressionnante. J'étais face à un écran. Puis quand tu zoomes vraiment à l'intérieur de ce produit-là, donc c'est vraiment une façon de visionner, par exemple, de la géomatique, hein, des plans, genre d'une rue, puis là, tu peux voir les canalisations, mais tu le vois vraiment en 3D, puis c'est vraiment un phénomène un peu Star Wars de l'eau projection qu'on veut avoir depuis si longtemps. Ça sort de l'écran, ça sort, tu as vraiment une impression, si tu te situes devant l'écran qui mesure l'eau où ton regard regarde parce qu'il y a une caméra qui regarde ton visage. Tu as vraiment l'impression d'être dedans. Et ce qui est le gros avantage de cet écran-là, c'est qu'il y a une qualité millimétrique. Il n'y a pas de brouillage quand tu le fais sortir devant toi. Tu as vraiment l'impression de pouvoir aller toucher des petites vis, des petits boulons. Donc, pour un concepteur en design industriel ou un ingénieur, c'est vraiment, vraiment pratique. Là, j'avoue que j'ai été impressionné par le produit.
Mais donc, eux ont décidé d'aller directement avec l'écran et non pas avec un casque.
Puis c'est un choix sciemment fait parce que le casque, effectivement, il n'y a pas de logiciel de conception de design industriel, genre AutoCAD, où eux, ils nous parlaient de celui de Dassault, la compagnie là, qui font des avions militaires et autres. Et on pas encore d'adaptation dans le casque, dans la réalité virtuelle, dans le métavers. Tu sais comment j'aime le métavers, mais il n'y en a pas encore qui sont conçus pour ça. Donc, ça permet d'être beaucoup plus en contact avec ton environnement, prendre des notes papier, retourner dans AutoCAD en mode normal, refaire sortir la pièce en 3D pour pouvoir la visualiser. Puis ce qu'il nous dit aussi dans l'entrevue, M. Genest, c'est que ça permet aussi un échange plus facilement dans la conceptualisation, dans la phase de conceptualisation entre différentes personnes dans le processus de conceptualisation, justement. Donc, ça amène quelque chose d'autre. Puis, on va l'entendre dans l'entrevue aussi, il y a des visées d'aller dans d'autres domaines. Puis, il y a un très, très beau potentiel. C'est intéressant. Puis c'est une des expressions, je pense, du 3D ou d'une forme de visualisation qu'on peut avoir qui est bien intéressante.
Intéressant comme rencontre. Ben, on va l'écouter à l'instant. Et puis, ben, Jean-François, je te remercie pour cette entrevue-là. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
Notre compagnie s'appelle i3D. Et notre produit, c'est un moniteur qui permet de voir en trois dimensions sans lunettes.
OK. Pourquoi on voudrait de nos jours avoir ça, un moniteur qui voit sans lunettes? Parce que là, on est dans le monde, là, tout le monde parle du métavers, ça prend des casques Oculus Rift, tout le kit. Mais vous arrivez avec quelque chose que j'ai essayé tout à l'heure, qui est intéressant, qui est vraiment passionnant même. On se met devant un écran et on a l'impression vraiment que le produit ou la chose en 3D qu'on va avoir dessinée, elle sort devant nous. Pourquoi on va là plutôt qu'aller vers le casque?
Déjà, pour sa simplicité d'utilisation, hein, tu t'installes devant ton écran, comme tu le fais aujourd'hui devant ton écran qui est probablement dans ton bureau. Donc, c'est la première chose, c'est naturel. Dans la vie, on voit en 3D sans effort et nous, c'est l'expérience qu'on veut procurer aux gens. Après ça, ce qui nous distingue aussi, c'est la résolution qu'on offre en 3D.
Ça,
c'est utile pour les gens qui ont à prendre des décisions. Hein, c'est-à-dire qu'on soit un concepteur... ou encore qu'on a évalué la maturité des arbres pour dire si telle portion peut être coupée ou pas.
Ouais.
Donc, la qualité, le fait que ce soit naturel, ça aide à prendre des meilleures décisions. Et c'est ça qui est un des objectifs là, de notre produit.
OK. Puis vous visez donc une clientèle qui, on en a parlé un petit peu avant, puis je m'en suis aperçu dans le démo que vous faites, on voit vraiment une pièce de machinerie. Ouais. Donc, vous visez le monde industriel ou des gens qui font des pièces commerciales. C'est solide, là. C'est vraiment, ça s'adresse à des ingénieurs.
Oui, ben en fait, les marchés qu'on va adresser sont divers et variés, mais les premiers marchés qu'on a décidé, si tu veux, de développer en premier, bon, c'est la géomatique. Et là, c'est la partie ingénierie, mais plus la partie industrielle, comme tu as vu, là, la conception des pièces.
Okay.
Pourquoi on a décidé d'aller vers ça? C'est le temps que ça prend pour générer ces contenus-là. C'est une question de temps. On aurait pu tout de suite décider d'aller vers les jeux vidéo ou le divertissement, mais les jeux vidéo, le divertissement, ça prend 2-3 ans à créer ce type de contenu-là. Donc, nous, on voulait déjà avoir des premiers clients, tester le produit, l'améliorer, commencer à générer des revenus. Et après ça, il y aura d'autres types d'applications, comme l'imagerie médicale. Donc,
Oui, évidemment, l'imagerie médicale pour la formation, j'imagine.
Pas seulement pour la formation, on est en discussion là, avec un cardiologue. Lui, son premier besoin, c'est la planification des chirurgies. Donc, ils ont déjà des données qui viennent, d'une échographie.
Un CAT scan.
Oui, exactement, un CAT scan. Donc là, ils ont besoin de planifier avant de faire l'opération. C'est quoi la meilleure méthodologie à utiliser? Si c'est des valves à remplacer, c'est quoi le type de valve en fonction de la morphologie de la personne, etc.
Et là, c'est pas un modèle théorique. Là. Il peut littéralement importer ou exporter ce qui a été scanné. Là.
Voilà, okay. C'est ça. Donc,
il va à l'avance. Là.
Exact. Donc, il planifie de façon à pouvoir, entre guillemets, à faire une opération qui va être plus rapide et plus sécuritaire.
Et encore là, c'est l'avantage, c'est que c'est un écran versus un casque 3D. Casque 3D, bon, c'est pas tout le monde qui est nécessairement habilité, qui a pas des nausées à un moment donné. Exactement. Aussi qui se développe. Voilà, là, avec un truc comme ça, lui, il peut prendre ses notes papier en face de l'écran et puis il est bien là.
Oui. Puis ça, c'est juste la première phase de la planification des chirurgies. La deuxième phase, pour eux, bien, ça serait éventuellement de faire les diagnostics. Hein? Puis bon, chaque, en fait, il y a beaucoup, c'est très normé le monde médical. Donc, ouais. Il y a des certifications à aller chercher pour chacune des étapes. Mais bon, il y a la planification des chirurgies qui est importante pour eux. Après ça, c'est établir un diagnostic. Il y a la formation que tu as mentionnée, à la fois des étudiants et des collègues qui ont des formations au cours de leur vie professionnelle. Et ce qu'on discute aussi avec lui, c'est de faire de la capture en temps réel et dans le champ opératoire à ce moment-là, pouvoir les aider à voir.
Littéralement, voir en temps réel. Oui, oui, oui.
Et là, on ne parle pas d'une opération à cœur ouvert où on voit le cœur. On parle de type laparoscopie où là, à ce moment-là, voir en 3D, ça les aiderait à positionner à la fois la valve qui est en place, etc., de façon à minimiser le temps d'opération. Puis c'est pas juste une question d'en faire plus dans la journée.
Ouais.
C'est plus l'opération est courte, plus le patient va récupérer rapidement.
Ah oui, bien oui, évidemment. Important. Évidemment, donc ça coupe le temps d'opération. Puis
c'est vraiment la intéressant. Qualité, de l'opération.
Ah, wow. Et tu mentionnais tout à l'heure le monde du jeu vidéo. Oui. Ça aurait voulu dire que les gens doivent s'acheter des écrans que vous concevez. Parce qu'en fait,
c'est pour ça qu'on existe, hein? Ouais. C'est pour vendre nos écrans.
Oui. Non, mais là, on parlait d'un grand public. Quand on parlait de jeux vidéo, c'était pas juste pour les concepteurs, mais pour tout le grand public. C'est aussi attaquer un marché qui est beaucoup plus large.
Tout à fait.
Un écran comme ça, est-ce que je peux demander à peu près combien ça coûte?
Oui, tu peux le demander, mais...
Ça ne veut pas dire que je vais avoir une réponse?
Non, je ne veux pas le rendre
le plus public. D'accord, je vais être patient alors.
Oui, c'est ça.
Mais donc, c'est pour ça que ça s'adresse plus pour l'instant à un monde industriel, des postes de travail pour du 3D.
On a déjà des discussions avec des éditeurs logiciels parce qu'eux, ça les intéresse là, de voir ce qui s'en vient, d'une part. Puis les discussions qu'on a avec eux, c'est à peu près à partir de... Dans combien de temps on va être à tel niveau de prix? Qui va être, si tu veux, le niveau d'accès pour leur clientèle cible ou actuelle.
Parce que c'est intéressant, parce que c'est en même temps, c'est très reposant comme façon de visionner. Tout à l'heure, ta directrice marketing, communication me disait « zoom in ». Puis elle disait que des fois, il y a des gens qui avaient un petit malaise. Pas du tout. En fait, je l'ai beaucoup agrandi. J'avais vraiment l'impression que j'allais pouvoir toucher au vis sans avoir un effet de flou, sans avoir d'imprécision. J'avais vraiment l'impression de pouvoir toucher et c'était très, très proche de mon visage. Oui. Ça, c'est vraiment un effet impressionnant. Il y a eu beaucoup de R&D derrière c'est un amalgame de technologies qui existait déjà ou c'est vraiment purement software?
C'est notre propre technologie. En fait, nous, on a conçu un écran. Bon, c'est certain qu'on réutilise des composants qui existent sur le marché, mais de plus en plus, on les développe nous-mêmes parce qu'on a atteint la limite... de la qualité qu'on pouvait obtenir avec ce qui existait. Donc là,
puis le reste, c'est software, dans le fond?
Oui, en fait, c'est à peu près un tiers d'optique, un tiers d'électronique, un tiers de logiciel.
Oui, parce que ça détecte le positionnement des yeux, le positionnement de mon visage. Quand je me suis installé devant l'écran, on m'a dit d'enlever mon masque.
Ouais.
Parce que c'est tout le visage qui est mesuré à ce moment-là.
Exact, oui. Bien, c'est pas tous les masques qui causent problème. Là,
le mien, oui, parce que c'est un gros masque.
Exactement.
Ouais. Je comprends.
Mais si on parle des masques chirurgicaux, il n'y a pas de souci pour
c'est vrai. Ouais. c'était pas une tentative de te piéger. Là.
Non, tout à fait.
Et qu'est-ce qui s'en vient donc dans le futur proche là, pour votre compagnie?
Bien, nous, on a des clients déjà depuis un an. Donc là, c'est vraiment la partie accélération, ce qu'on appelle scale-up. Là. Donc là, on commence à se répandre dans différents marchés. On commence à avoir des clients aux États-Unis. On est en discussion avec des clients ou des prospects en Europe. Donc là,
ça décolle.
Oui, exactement.
Y a-t-il une future évolution du produit? Peut-être que là encore, tu ne voudras pas m'en parler, mais y a-t-il quelque chose où il y a une évolution logique vers ce genre de produit-là?
Nous, notre produit, c'est notre propre technologie. On peut faire des formats plus grands. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça. Donc,
c'est possible, ça?
C'est possible, oui.
Genre un écran pour un salon ou pour, montrer des condos là, dans les petits...
Notre objectif à nous, c'est de remplacer les écrans qui sont dans vos bureaux, mais aussi d'être à la maison pour la partie loisirs et divertissement. C'est certain que c'est un petit peu plus loin là, dans le temps, mais...
C'est intéressant. On va suivre ça, oui.
Mais la COVID, il y a eu certaines difficultés pour nous, mais certains avantages, c'est que...
Les gens travaillent à la maison.
Voilà. Comme ils travaillent à la maison, notre écran va se trouver dans la maison pour des fins professionnelles. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après 17 heures? Ils vont vouloir pour le moment essayer toutes sortes de choses. Donc là, ça va mettre une pression.
Oui. Ouais, ouais.
Voilà, ça va mettre une pression sur les éditeurs logiciels pour les jeux vidéo, entre autres.
Ouais.
Mais il y a déjà des contenus qui sont disponibles, donc on peut voir. Bon, c'est pas toujours de qualité.
Parce que c'est vrai que les écrans sont devenus autant un instrument de travail que de jeu après le travail. On est toujours devant nos écrans, finalement. Donc, il y a un bon marché pour le futur.
Oui, mais là, ça, c'est un peu plus naturel. En fait. Nous, on pense que l'expérience est plus agréable. Puis, en tout cas,
c'est
on est content de savoir que tu apprécies.
Ça intéresse les technos, oui, exactement. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci, ça fait plaisir.
Bye, bon salon.
Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été présents dans cette édition. Quant à vous, qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.